1, 2, ça marche. Alors la question, c'était surtout sur le temps, l'organisation, que ça implique. La semaine, le mois, les heures, je ne sais pas. Si vous avez la réponse.
En ce qui nous concerne, étant donné qu'on ne fait pas que la monnaie, c'est vrai qu'il nous faut plus de deux temps pleins et demi. Voilà. Répartis, on est actuellement un groupe de très 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 actifs, de, on va dire, très actifs, 5 personnes. Philippe et moi, on fait presque un temps plein chacun. Bon, c'est parce qu'on le veut aussi. On est intéressé par trop de choses, quoi. Et puis, Philippe s'occupe surtout tout ce qui est le côté banque, ceci, cela, le côté financier. Moi, je suis plus dans la communication, le contact avec les utilisateurs, les prestataires, aller voir les nouveaux prestataires. Après, on a 2 trésorières qui font un bon boulot aussi. On en a une qui, de temps en temps, avec 2 autres personnes auprès de qui elle fait appel, elle met ce qu'on appelle, elle prépare les enveloppes de coupons, parce que pour que ce soit plus facile pour ce qu'on appelle les comptoirs d'échange, qui sont quand même des commerçants, hein, on prépare les coupons, on leur donne pas en vrac, c'est préparé dans des enveloppes, et l'utilisateur, il va acheter une enveloppe de 50, ou 2 enveloppes de 50, ou 3 de 50, voilà, on le fait par enveloppe de 50. Ensuite, quand il faut aussi les tamponner tous les 6 mois, il faut des petites mains, comme on dit. Et puis, il y a quand on organise des événements, parce qu'on en fait pas mal, il faut organiser le stand, la messagerie, le repas, le buffet, le ceci, le cela, la recherche d'intervenants, enfin, bon, aussi une partie de ce que vous connaissez déjà ici, quoi. Disons qu'on s'investit beaucoup. Il y a des monnaies qui s'investissent moins. Voilà. Mais c'est vrai que grâce à cet investissement, sur d'autres sujets que la monnaie stricte, on a une association, un réseau qui est connu dans le département. Tout le monde connaît l'appel, même si très peu l'utilisent. Et puis, c'est une référence, quoi. L'association commence à devenir une référence à cause de son fait, de l'éthique, etc., quoi. Mais je crois que c'est ça. Il faut quand même, il faut du monde pour s'en occuper, pour le suivi. Alors, nous avons les 2 premières années fonctionné qu'entre nous, bénévoles. Et puis, après, on a eu quelqu'un qu'on a transformé, enfin, qui avait droit à un contrat aidé, et qui a pendant 2 ans, on trouvait que 20 heures au contrat aidé, c'était trop peu, on l'a passé à 28 heures, c'est-à-dire 8 heures supplémentaires. Et après, les 2 dernières années, on l'a passé à 35 heures, donc un animateur qui, grâce à ça, a développé, enfin, s'occupait beaucoup, beaucoup des prestataires, faisait des permanences chez des commerçants pour essayer d'informer des futurs utilisateurs, tout ça, bon, voilà. Et cette année, 2016, nous ne sommes redevenus que des bénévoles parce que nous n'avions plus d'argent dans la caisse. On reconstruit la caisse, comme on dit. Voilà un petit peu, mais... Voilà. Et en fait, la monnaie, comment dire, il ne faut pas croire qu'avec la monnaie, on va tout résoudre. Absolument pas avec la monnaie locale. Absolument pas. Ça reste quand même des projets... c'est pas phénoménal. Mais, d'ailleurs, on le voit même dans le film Demain, le radis n'est pas une monnaie. Il le dit, d'ailleurs, le maire, je crois. À un moment, c'est pas une monnaie, ou il le dit dans Sacré Village, peut-être, qui est utilisée par énormément de personnes. Mais malgré tout, c'est quelque chose, c'est un repère. Ça montre que c'est possible. Ça montre que, finalement, si on pourrait s'y mettre tous, non, si beaucoup s'y mettent pas, parce qu'ils sont, comme je disais, dans l'immobilisme, dans le conformisme, voilà, quoi. Mais c'est quelque chose qui est là, c'est une expérience, un témoignage de... une autre façon qu'on pourrait envisager pour l'utilisation de notre monnaie.
Merci. Donc, juste pour finir, par rapport à tout ce temps investi, donc, par rapport à toutes ces personnes, donc là, aujourd'hui, vous êtes toujours 5 ou plus?
Alors, on est 5, 6. Donc, comme je vous l'ai dit, on est surtout nous, on s'en occupe énormément. Et puis après, oui, on a les 2 trésorières, une secrétaire... Voilà, et puis des personnes, des fois bénévoles, qui viennent donner un coup de main. Voilà.
Voilà, oui, donc on peut être un peu plus si on veut répartir le pareil.
Ah oui,
c'est simple, quoi, je veux dire, c'est pas.
Oui, au moment des événements, on est plus. Hein.
Oui.
Mais ça
les stands, c'est. Voilà, et les stands, c'est pour la, le propos. Faire valoir. Merci.
Parce qu'en réalité, nous avons créé un nombre d'administrateurs de 17 personnes qui sont donc participantes. Hein. Le nombre indiqué là est les plus actifs. Hein. On a fait souvent le collège de façon à ce que les entreprises, les associations, les fondateurs et les actifs soient tous représentés et puissent participer aux décisions. Mais tout le monde n'est pas disponible tout le temps et il y en a 5 ou 6 qui fonctionnent régulièrement.
Merci.
Alors, 17, c'est beaucoup, mais c'est bien de ne pas être une association où il n'y a que 5 ou 6 personnes. Parce que c'est ce renouvellement et toutes ces idées, il faut que ça se renouvelle, il faut cet apport d'idées, quoi, de ce dynamisme.
Vous avez d'autres questions ici là. Moi, je voudrais revenir sur la Banque de France qui vous impose autant d'euros que d'abeilles. Pourquoi est-ce que c'est vraiment obligé, alors que c'est que la Banque de France, elle, ces billets sont fictifs, ils n'ont aucune garantie derrière, et par contre, il faudrait que la monnaie locale ait une certaine garantie, surtout avec les euros. Donc, c'est la banque, c'est, vous êtes une antenne de la Banque de France.
Une antenne, c'est beaucoup bien. Mais effectivement, tout à fait juste, il est vrai que la Banque de France n'impose pas. Tout au moins les critères de Bâle actuellement, de Bâle 3, n'imposent pas d'avoir un capital équivalent à l'argent scriptural, d'ailleurs uniquement scriptural qui circule. Mais bon, voilà, c'est ceux qui décident. Hein. En ce qui nous concerne, ils ont considéré que, quelque part, moi, ça ne me gêne pas. Parce qu'il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on dit on n'est pas adossé à l'euro. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on veut, on fait circuler dans un cercle restreint une monnaie qui est ce qu'elle est, mais que tout le monde accepte, et s'ils l'acceptent, ils en acceptent les risques. Il n'y a pas de fonds de garantie, on n'est pas adossé à l'euro, on ne veut pas connaître. On ne dit pas que ça vaut un euro. C'est une chose. Bon, ceci dit, je ne sais pas ce qu'ils en penseraient, mais pourquoi pas. Ce n'est pas notre choix. Notre choix a été de dire on est complémentaire à l'euro, parce qu'on veut justement pouvoir être sur la place publique et travailler avec des professionnels qui, eux, ont besoin d'euros. Parce qu'il est certain que si on exige, parce qu'on n'a pas tout dit, hein, il y a une commission de reconversion pour les entreprises qui vont reconvertir leurs abeilles en euros. Donc je veux dire qu'on les incite le plus longtemps possible à faire circuler les abeilles parmi leurs fournisseurs. Ça ne sert à rien, si vous voulez, qu'elles aillent chez le commerçant, qu'elles reviennent tout de suite de la banque. Donc l'objectif, c'est que ça circule aussi bien pour les utilisateurs que pour les entreprises. Donc, les fournitures, vous n'avez pas toujours un marchand de chaussures, on n'a pas nécessairement à Rodez un fabricant de chaussures. Donc, il va les chercher où ? Ben voilà, il faut bien trouver des fournisseurs. Donc, ce n'est pas nécessairement évident de l'utiliser pour un commerçant toutes les valeurs qu'il reçoit. Donc, il faut qu'il reconvertisse pour avoir la trésorerie. Et à ce moment-là, nous, on a choisi ça parce que, si vous voulez, derrière, il y a la possibilité de répondre. Si vous dites tout de suite, si vous créez un réseau en disant on n'est pas adossé à l'euro, c'est notre monnaie, et puis vous verrez, s'il y a des problèmes, on vous remboursera, je ne sais pas comment, il y a un problème, quoi. Hein. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'entreprises qui vont vous suivre. Donc, on a choisi la confiance. Et la confiance, c'est de dire, on est à même de vous rembourser du jour au lendemain. Voilà. C'est ça qui est important. Après, que la Banque de France nous exige, nous, la même chose, et ne le font pas pour les banques, de toute façon, c'est les banques qui décident, donc voilà.
Les euros sont stockés où ?
Alors, les euros sont mis sur un compte à part, effectivement. Alors, d'une part, si vous voulez, quand on met en circulation des billets, des bons, hein, des billets, ils sont numérotés déjà. On sait dans les enveloppes les numéros qu'on met. Chaque enveloppe est numérotée. Il y a une traçabilité, on sait où ça va. Et les gens qui prennent des abeilles, et le comptoir d'échange nous rend l'enveloppe avec le billet de 50 euros dedans. Voilà, en échange. Donc, et cet argent-là, on le collectionne en permanence, et on le met sur un compte à part, indépendant de notre compte de fonctionnement, qui est un livret d'épargne de la NEF. Tant que la NEF était liée au Crédit Coopératif Banque Populaire, on le faisait sur un livret NEF, Crédit Coopératif Banque Populaire. Désormais, la NEF étant indépendante, on fait sur un livret NEF de façon à pouvoir dire qu'on a une volonté, si vous voulez, de faire ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire de le mettre dans un endroit, la NEF étant pas tout à fait une banque actuellement à 100%, mais étant quand même une société financière éthique, on ne peut pas dire qu'elle est de France, on a choisi de le mettre là parce que cet argent va servir à des projets de qualité, quels qu'ils soient, culturels, sociaux, artisanaux, peu importe. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Après, chacun fait comme il veut. Je dis ça parce qu'en réalité, dans les projets de monnaie locale, il y a une variance. Nous avons donné l'exemple, mais nous n'avons pas imposé les règles. Donc il y en a qui font de façon plus ou moins différente. Mais j'attendrai, je dirai un peu parce que j'attends peut-être des questions.
C'est un corollaire de ce qui vient d'être dit. Si des billets, des coupons abeilles disparaissent, comme vous avez évoqué tout à l'heure, en cas de vol, d'incendie, de perte, le fonds de réserve ne correspond plus, il est excédentaire par rapport. Comment résolvez-vous ce détail?
En réalité, il n'est pas très important. On sait exactement, je sais exactement le nombre de coupons qui ont disparu théoriquement. Je dis théoriquement parce que rien ne nous empêche de savoir s'ils sont pas revenus dans le circuit, étant donné qu'on n'avait pas les numéros de ce qui a été volé dans la caisse. Mmh. Mais bon, donc un certain nombre qui n'est pas très important quand même. Hein. C'était histoire de dire. L'important était de dire que effectivement, il y a un risque de se faire voler l'argent, quel qu'il soit. Mais par contre, la contrefaçon n'existe pas. Ça ne vaut pas le coup d'investir dans la contrefaçon.
Donc, il peut y avoir un incendie, par exemple, qui fait un incendie dans une
ville. Par exemple, il y a eu un incendie dans l'entreprise, on savait comme il y avait de la veille dedans. Donc ça, on le sait, mais ça va pas plus loin. Et de ce fait, on a effectivement un fonds de garantie. Tant que les coupons ne sont pas revenus, on a l'argent équivalent de ce qui est théoriquement dehors. On sait, nous, qu'il y a une marge avec, on sait combien il y a de coupons qui ne sont pas censés revenir. Donc, à terme, ce n'est plus l'urgence, à terme, ça sera déduit du fonds de garantie. Et ça reviendra dans le fonctionnement. Mais pour le moment, on le maintient comme ça, parce que ça ne pose pas de problème.
Je suis là. Est-ce que les médias ont parlé de vous, et si oui, lesquels? Et à quel échelon, local, national, on peut rêver ça.
Si les médias ont parlé de nous.
Ah oui, vas-y. Et en bien, moi. Ah.
Oui, on peut dire que, mais dès la première année, dès le début, à vrai dire, oui, on a parlé de nous dès le début. Dès, on va dire, le premier trimestre 2010. D'abord parce qu'on a participé à un colloque à Nanterre où il y avait quand même des monnaies allemandes, des monnaies anglaises, Angleterre, il y avait Bernard Vietard, il y avait Philippe Leruder, Patrick Liberet, enfin bon, voilà. Nous, on était tout petits parce qu'on n'avait pas encore démarré, on se faisait tout petits. Et puis on nous a demandé de présenter ce projet qui allait sortir, l'abeille. Et comme on était les premiers en France, monnaie papier, tout de suite, il y a eu des regards, quoi. Et on a été interpellés par une journaliste qui nous a dit « Il faut que vous veniez à Paris en février. Hein. » Ouais. Et puis à partir de là, c'est passé dans le journal des maires, c'est passé, etc. Et effectivement, on a été très très sollicités, on a eu pratiquement tout. Je vais vous raconter encore une anecdote par rapport à notre maire de l'époque. Et on a eu, on peut dire, toutes les télés qui sont venues, étalées à peu près sur 2-3 ans, hein. Les radios, etc. France Culture, etc., la 5, la Arte, tout. Et par rapport à notre maire, une fois comme ça, on ne savait pas encore le problème qu'il allait avoir. Et puis il y a une de nous qui lui dit, vous savez, monsieur le maire, on nous questionne beaucoup, et les journalistes, mais même les gens, nous interrogent, et nous disent, et qu'est-ce qu'en pense votre maire? de la monnaie locale, la veille. Vous leur direz que je n'en pense que du bien. Bon, voilà. Donc, vous voyez que chaque personne a une... plusieurs facettes, quoi. Donc, on a été interpellés énormément. Et c'est aussi grâce à ça que... le fait que ça se sache un peu partout, des citoyens comme vous, comme nous, comme d'autres, se sont dit « Ah, mais c'est super !» Et ils auraient envie de faire pareil, quoi, en fait, de faire une monnaie locale complémentaire. Donc on a pas mal sillonné la France, et vous voyez, on continue encore. Et très très rapidement, oui, on est arrivé au bout de 3 ans, 4 ans, à ce qu'il y ait une trentaine de monnaies locales qui circulent. Là, je crois qu'actuellement, on en a plus de 40, hein. Parce que des fois, il y en a qui sont un petit peu en sommeil, mais il y a une quarantaine de projets. En fait, il n'y a pas un département qui n'est pas ou qui ne pense pas à avoir sa monnaie.
J'ai vu à Toulouse aussi. Oui, à Toulouse, hein, la violette.
Oui, le sol violette. Le sol violette qui, d'ailleurs, s'est mis à créer le sol violette sous forme de coupon, parce que, justement, on avait créé l'abeille sous forme de coupon. Parce qu'au départ, ils voulaient faire le sol violette uniquement monnaie numérique. Et puis ils se sont rendus compte que finalement, cette monnaie papier a un autre intérêt, c'est un autre lien. Donc toutes les monnaies, la plupart des monnaies qui existent maintenant, c'est des monnaies papier. Par contre, il y a certaines personnes qui veulent maintenant créer des monnaies, on va en reparler, uniquement numériques. Nous, on est pour le numérique, mais après, quand la nécessité se fera sentir, et puis pas que le numérique, on gardera toujours le papier.
Puisqu'on dit ça, il y a quand même quelque chose à savoir tout de suite, parce que beaucoup convergent avec cette idée d'être à la mode, mais en réalité, le numérique a une utilité, et surtout pour les entreprises, ça c'est évident, après, d'un certain niveau, parce que le commerçant, c'est pas le problème. J'ai dit tout à l'heure que l'Assemblée nationale avait voté récemment, c'est le 7 octobre hein, 2016, une nouvelle loi sur la société numérique, de façon à ce que les administrations puissent se lancer désormais, on va vous imposer pour les impôts, pour tout, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, la Banque de France, donc la CPR, toujours avait une exigence en fonction des directives européennes très forte sur le numérique. C'est deux réglementations différentes, et pour nous, on ne nous demande pas d'avoir de capital, on nous demande simplement d'avoir un fonds de réserve identique. Mais par contre, pour le numérique, vu que ça peut circuler beaucoup, ils demandaient d'avoir un capital de 200 000 euros au départ. Parce qu'effectivement, ça peut prendre très vite des proportions. Donc, la loi donc, du mois dernier fait qu'ils ont changé le fusil d'épaule et que la CPR a donc décidé de rabaisser les conditions. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, si vous pouvez effectivement plus facilement créer une monnaie numérique il y a deux mois, il vous faut encore quand même un capital de 100 000 euros. Voilà. Donc, ce n'est pas l'urgence. Quoi, hein. Je ne sais pas quels sont les objectifs qu'on poursuit ici ou dans les projets de monnaie locale, mais ce n'est pas l'urgence. Ça a un intérêt. Mais je pense là aussi qu'avant de se lancer dans quelque chose dont on projette un avenir magnifique, il faut commencer par s'enraciner, par exister, par se structurer, par s'organiser et par se relier. Et à partir de là, ensemble, on peut faire des choses. Mais commencer à dire « on va tout bouffer avant de savoir si on existe vraiment », ça risque de ne pas durer.
Oui, et puis ce que je veux rajouter par rapport à cette histoire de numérique, la différence entre numérique et papier, c'est-à-dire que personnellement, nous, on n'est pas du tout... on est peut-être vieux jeu, vous me direz, mais on n'est pas du tout... Nous ne sommes pas des personnes qui, quand quelque chose coûte 1 euro, 3 euros, 5 euros, 50 centimes, on ne paie pas avec le numérique, on ne paie pas avec une carte bancaire, avec un téléphone où on s'en sert le moins possible. Hein, voilà. Bon, je veux dire par là, c'est quand même quelque chose, le numérique, qui est bouffeur d'énergie, qui est très polluant. Beaucoup plus qu'un petit papier qui lui va circuler X fois. Chaque fois qu'on tape sur un téléphone ou ceci, on sait fort bien. Alors, toujours quelqu'un nous disait aux rencontres qu'on a fait dans le Grand Ouest, là en Bretagne, que pour. C'est PayPal, il parlait de PayPal. PayPal qui, pour l'utilisation de PayPal, tout le monde connaît PayPal, enfin, presque, il faut que là-bas il y ait une centrale ou deux électriques qui tournent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, quand on fait nos paiements par PayPal. Parce qu'on fait des. Donc vous voyez que c'est bouffé. transfert d'une énergie contre laquelle, à un certain point de vue, quand on ne veut pas le linker et tout, on s'y oppose. Et puis finalement, on entre dans ce jeu de toujours plus de numérique, toujours le téléphone qui est un super outil, le portable, est devenu le véritable jouet de la majorité de beaucoup de gens et tout. Je crois qu'il va falloir à un moment qu'on redevienne un peu plus raisonnable, qu'on consacre son temps, ce temps qui est précieux, à autre chose que toujours jouer et polluer finalement. Mon point de vue.
Moi, je voudrais poser une question. Quels ont été les freins les plus importants dans votre développement? Peut-être vous n'en avez pas eu de freins.
Non, mais si, bien sûr. Ce qui nous paraît être un frein important, c'est après avoir fait au bout de 2 ans, pour voir comment on pouvait imaginer, on avait un salarié, donc développer. Faire des choix d'orientation, fait une enquête, une enquête sur des micro-trottoirs, hein, c'est-à-dire s'adresser au hasard à plein de gens, partout, à différents points de passage, etc. Et on s'est aperçu qu'effectivement, la plupart des gens qu'on avait croisés, il y avait un échantillon, ça a été fait par un professionnel, un échantillon important, connaissaient tous avec. Et quand on leur demandait pourquoi vous en servez, non, pourquoi? Alors quelques-uns, c'était parce qu'il me faut 2 porte-monnaies. Bon. Voilà. C'est comme certains commerçants qui vous diraient, il me faut 2 caisses. Bon. Mais bon, donc c'est une... C'est là qu'on s'est aperçu, c'est que le passage à l'acte, beaucoup de gens apprécient, s'intéressent, trouvent que c'est un projet intéressant, ils nous disent continuer. Mais voilà, mais le passage à l'acte de leur part, c'est autre chose. Hein. Et en réalité, on a beaucoup plus de facilité d'interpeller les professionnels, non pas parce qu'ils viennent en aspirant, ils savent bien que ça ne va pas nécessairement aller très loin tout de suite, mais plus de facilité d'écoute, parce qu'on a une démarche de qualité, de recherche, d'amélioration, et qu'on s'aperçoit que chez les professionnels, c'est quelque chose qui existe, et qui est, malheureusement, les contraintes qu'ils ont ne leur permettent pas nécessairement de le réaliser et qui sont très satisfaits de pouvoir se démarquer par rapport à leur choix personnel. Alors que dans le public, il y a des militants, il y a des alternatifs, il y a des gens qui trouvent ça bien et qui font l'effort, mais ce n'est pas la majorité qui fait l'effort. Ça, c'est un frein.
Oui, quelque chose qui nous a beaucoup surpris, c'est que quand on était en train de créer la monnaie, avant qu'elle sorte, on était persuadés, étant donné qu'on était déjà dans des réseaux importants, on était persuadés que, je sais pas moi, 80% des gens de nos réseaux allaient l'utiliser. Et puis les écologistes, les gens d'attaque, les ceci, tous ces gens qui sont contre les, qui se disent contre les banques, contre ceci, contre cela. Et nous, on voyait que c'était un moyen, cette monnaie, que ce serait un moyen de vraiment faire bouger les choses localement. Et bien, je peux vous dire que nous n'avons aucun écologiste que ceci, aucun cela, enfin... C'est vraiment très peu, très peu. On a par exemple actuellement 300 adhérents, dis-je. Sur les 300 adhérents, bon, il y a ce qu'on appelle les prestataires, hein, 120, 130, mais sur les utilisateurs, il n'y en a pas 180, absolument pas, ou 200, ou 200 et quelques, absolument pas. C'est très, très, très réduit. Et toutes les monnaies ont le même profil, le même problème. Donc c'est que ça veut dire que c'est une réalité qu'il faut en être conscient et qu'il faut faire avec cette réalité. Savoir que le changement met beaucoup de temps à se faire en chacun. Comment chacun de nous, il y a peut-être des changements qu'on a du mal à faire.
Je vais vous demander justement, Julia, le nombre d'adhérents que vous aviez et sur quel territoire, quelle ville vous êtes et quelle importance de population il y a sur ce territoire où vous êtes. Est-ce que vous êtes en rural
On a démarré sur ce qu'on appelle le Villeneuvois, c'est-à-dire la communauté d'agglomération de 17 communes autour de Villeneuve-sur-Lot. C'est pas rural à 100%, mais disons, en dehors de la ville, c'est quand même très rural. Ceci dit, il y a beaucoup de villages, c'est quand même une densité de population normale. Et puis, avec, à partir du moment où on a eu un salarié, et puis parce que là aussi, comme ici je suppose, il y a des gens qui habitent à Jeanne, vont travailler à Villeneuve, et des gens de Villeneuve qui vont travailler à Jeanne. Et puis, il y a des entreprises qui sont sur les deux et qui font les deux marchés. Donc, on nous a demandé, avec assistance pendant 2 ans, de s'élargir. On est allé effectivement jusqu'à Agen. On s'est donné comme limite 30 km à la ronde, à quelque chose près. Hein. Donc, on va aussi bien dans le nord du département, Montflanquin, qu'à Fumel, à la limite du Lot, qu'à Marmont, mais à Tonnens, qui est à la limite est. Voilà. Et puis, Agen. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal parce qu'après il faut suivre. Donc je pense que c'est pas indispensable de vouloir faire trop et que si on n'avait pas eu de salariés, on n'aurait peut-être pas développé tout de suite aussi large et que ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que là aussi, l'important c'est le fait que tout le monde connaisse alors qu'on ne touche pas tout le monde, c'est que quelque part il y a une démarche pédagogique qui est importante. Et on ne travaille pas. Alors. Je crois que c'est important, si vous envisagez de créer une monnaie, de faire la différence. Quel est l'objectif qui est poursuivi? Je dis ça parce que dans mon nouveau projet actuellement, certains disent c'est mon local, c'est du circuit court, c'est vrai, c'est important. Mais c'est pas que ça. Si c'est que ça, si vous voulez, évidemment que l'objectif est de développer, d'en faire encore plus, et puis d'avoir un développement économique pour, avec les mêmes mots qu'on entend au niveau du gouvernement, quelque part. Hein. Parce que c'est une démarche de croissance hein, de vouloir se développer. Donc, ça, c'est important, pourquoi pas, de faire mieux. Si on fait mieux, on est apprécié, et si on est apprécié, on est plus nombreux.
Mieux éthique.
Mais je pense qu'il y a plus que ça. Si vous voulez, la réflexion sur l'utilisation de l'argent, ce n'est pas simplement le fait de le faire passer aux voisins, en circuit court. C'est aussi de dire à qui je veux que ça serve. Et qu'est-ce que je veux en faire, moi? Est-ce que je veux qu'il revienne à la banque le soir même, pour qu'il aille là où je ne veux pas? Ou est-ce que je veux qu'il circule le plus longtemps possible et qu'il me permette, et qu'il permette aux gens de travailler ensemble? Donc, c'est une démarche de qualité, de réflexion et d'intention d'amélioration. Et si vous poursuivez ce but, ce n'est pas le développement qui est important. Il sera ce que les gens veulent qu'il soit. Mais si vous poursuivez un but de développement local, strict et économique pur, à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Donc je dis ça parce que c'est important de faire la différence. On voit aujourd'hui dans les projets cette démarche de dire on est dans un coin perdu, il faut qu'on s'en sorte, oui, bien sûr, mais je pense qu'on interpelle et on a une action pédagogique beaucoup plus importante à terme si on hausse le degré de qualité plutôt que de tirer vers le seul économique.
Bonjour, vous parliez de votre association qui avait 300 adhérents. L'association de base, c'est sur la monnaie locale. Et la deuxième question, c'est comment avez-vous financé l'impression de tous ces billets? Alors, j'ai peut-être pas bien entendu, mais.
Oui. Attendez, première question. Donc, l'association qui s'est créée, s'appelle Agir pour le vivant, qu'on a créée en 2008. Et comme je vous dis, qui était l'aboutissement de tout un cheminement pour une certaine partie de l'équipe. Et puis c'est en 2009 qu'on a créé, qu'on a mis en route la monnaie et qu'on l'a sortie officiellement en 2010. Alors ça aussi, je vais rajouter que nous, on est vraiment... Je vous dis maintenant, ce serait maintenant, je démarrerai une monnaie maintenant. Peut-être qu'au lieu de mettre 6 mois, on mettrait 2 ans. Parce qu'on se référerait aux autres, tout ça, et on serait peut-être dans une certaine inquiétude, et patati et patata. Alors nous, on avait une confiance absolue, on était peut-être naïfs, mais on a fait ça en 6 mois. Il n'y a aucune monnaie depuis qu'est sortie leur monnaie en 6 mois. Il y en a qui mettent 2 ans, 3 ans après, ils sont encore en réflexion. Nous, 2 ans, on trouve que même 2 ans, c'est trop long. Je pense qu'il y a un an et demi. Il ne faut pas que ça traîne, c'est pas la peine. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a mis en place, on va dire, la charte, au niveau éthique, on sait ce qu'on veut, c'est pas la peine que ça dure 2 ans, 3 ans, parce que l'équipe s'essouffle. Alors, il y en a beaucoup, ils perdent des membres de l'équipe, c'est des nouveaux qui reviennent, alors il faut recommencer à zéro, et puis 3 ans ou 4 ans après, ils sont encore en projet. Donc, c'est une petite indication, hein. Donc, et au départ, bien sûr, comme toute association, on avait très très peu d'adhérents. Et puis c'est à partir du moment où on a créé la monnaie qu'on en a eu de plus en plus. Et votre question, c'était comment on a financé les coupons. Ah, mais pareil. le premier coupon, on a été très, très confiants. Les premiers petits, oui, je regrette de ne pas les avoir apportés, ce qui faisait comme un peu comme un ticket de métro, ça ne coûtait rien. Quoi. Et après, quand on a sorti les premiers coupons en janvier 2010, on avait déjà quelques personnes qui avaient adhéré, des futurs prestataires, tout ça, et puis on a complété, on a fait un budget prévisionnel, très bien. Puis au moment où il fallait payer l'imprimeur, on a avancé un peu de notre poche. Et puis après, là, l'argent est rentré de par les adhésions pour les utilisateurs. On avait fixé au début, non, c'était à 12, après on est monté à 20. Et pour les prestataires, on était à 20, et puis au bout de 2 ans, on est monté quand même à 50. Enfin, pendant, si vous voulez, on a fonctionné uniquement avec l'argent des adhésions. Nous n'avons aucune subvention. Non, je mens. Une petite subvention de 500 euros. Sur un budget, vous imaginez combien avec voilà, 500 euros. Et tout le reste, c'est vraiment les adhésions, c'est l'argent des événements qu'on fait, on se décarcasse, et puis voilà.
Ça coûte combien?
Alors, les premiers coupons en 2010 ont coûté, je ne sais plus trop, à faire si j'ai le papier dans mon cartable, mais je pourrais le ressortir. Si vous voulez, voilà. Si ça vous intéresse de savoir vraiment, ou je le ferai passer, je le ferai sur, on le transfère enfin. Bon, disons que les derniers coupons qui ont été faits pour 4 ans, là, ont coûté 2400 euros, tout compris, avec l'hologramme, qui lui rajoute quand même une somme. Ils sont valables 4 ans, ce qui fait sur un amortissement chaque année de 600 euros. Quand une association est dynamique, c'est pas un problème. C'est, faut pas, le côté financier ne doit pas être un frein.
C'est pour avoir un.
Je pense que quand on est aussi, quand on sait ce que l'on veut, qu'on est dans la confiance, l'argent arrive. Hein, pas les subventions, mais on compte pas. On compte plutôt sur vous et vos adhérents.
Vous avez combien globalement en cours
de
en montant, le montant total en cours actuellement
de rentrée. Alors par exemple, on va dire à peu près le montant de rentrée adhésion sur l'année, là ça va dépasser, ça va être plus de 8 000, entre 8 000 et 9 000 euros. Hein, voilà.
De cotisation.
D'adhésion.
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 Et de monnaie en cours.
Alors de monnaie en cours, là je ne sais pas trop, parce que j'ai plus tant d'en occuper.
On arrive à 100 000 euros à propos de circulation sur l'année.
D'accord.
Il n'y a pas de centimes coupés dans.
Ah non. Alors, effectivement, il n'y a pas de centimes volontairement. Alors, c'est une des raisons de l'article de loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, au traitement de l'exigence de la Banque de France sur la c'est compliqué d'avoir les centimes, et puis c'est des pièces. Voilà. Donc, en réalité, on se sert des centimes d'euros. Donc, on est censé faire la pointe, je dis censé parce que c'est facile quand vous devez 2,20 €, vous pouvez très facilement donner 2 abeilles et 20 centimes d'euros. Mais quelquefois, sur des rendements de monnaie plus importants, vous n'avez pas tout. Et la Banque de France, comme je vous le disais, ne souhaite pas qu'il y ait des données. Mais pour des centimes, nous, on ferme les yeux. Parce qu'il n'y a pas de souci particulier, si vous voulez, si vous avez 5,80 € et qu'on vend 20 centimes, je ne vois pas de problème. Donc, ça ne pose pas de problème, mais voilà. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de grosses sommes qui sortent de la caisse sous forme d'euros.
Est-ce que vous pouvez nous parler du COPEC? Ça arrive sur...
Alors... Je ne sais pas, peut-être certains ont entendu parler effectivement parce que c'est récent. Et puis c'est quelque part un petit poisson qui est en train de circuler parmi les monnaies locales. Le COPEC, c'est. Alors, peut-être que d'ailleurs, certains vont comprendre. Certains connaissent peut-être un monsieur qui s'appelle Gérard Poujade, qui est l'ancien vice-président du Conseil régional de Méditerranée. Et qui n'est plus d'ailleurs, puisqu'il n'a pas eu l'agrément à l'Institut socialiste, il n'est plus il pas pu se représenter, pour des raisons qui, voilà, on passe dessus. Mais il est maire de séquestre dans le temps. Et il avait déjà, lorsqu'on a lancé la monnaie, bon, La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé à Bercy, puisqu'il faisait partie de la commission. Et c'est quelqu'un qui est très entreprenant et qui, en plus, veut faire plein de choses. Bon. Donc, il avait à l'époque lancé ce qu'on appelle le MIPI. Il voulait lancer le MIPI. MIPI, c'est Midi-Pyrénées. C'est le nom d'une monnaie régionale. Déjà, nous, on venait de démarrer le local, lui, il voulait de la régionale. Voilà, donc, en tant que vice-président, il avait un peu là, il a obtenu l'argent. Bon, c'est jamais démarré, mais voilà, il en était là. Et puis maintenant, on vient d'apprendre, là, depuis 6 mois, qu'il lançait une nouvelle monnaie qui s'appelait le COPEC. Alors, COPEC, on sait ce que c'est qu'un COPEC. Pourquoi il a choisi ça, je ne sais pas. Peu importe. Donc, en réalité, il a créé une SCIC avec des chefs d'entreprise, uniquement avec des chefs d'entreprise, qui est une démarche de projet commercial, strictement commercial, qui pour moi est du greenwashing, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est allé voir toutes les institutions de l'économie solidaire, le Crédit Coopératif, le Massif, l'ANEF, l'Enercorp, etc. Il leur a dit, moi, je vais financer des projets environnementaux, hein, avec toutes les marges que je vais faire, et donc les gens pourront choisir. Et ma monnaie sera uniquement numérique, et elle sera nationale. Voilà. Alors, une monnaie locale nationale, ouais, si vous avez entendu dans quel état d'esprit nous travaillons, vous voyez le fossé qui nous sépare. Cette personne est quelqu'un de très entreprenant et très... une facilité d'expression très convaincante, puisqu'il arrive à en saisir quelques-uns. Bon, il a considéré que le monnaie locale, ça ne valait rien, qu'on n'y arriverait pas, et que pour pouvoir faire des affaires, et puis de la croissance et sauver des emplois, il fallait créer quelque chose de national. Voilà. Bon, ça le regarde. Moi, c'est ce que je pense du COPEC, et en ce qui nous concerne, nous n'en ferons jamais partie. Tant qu'il y aura M. Poujade, tout au moins.
On aurait pu l'appeler le FRAN.
Pardon ?
Le FRAN. Il aurait pu l'appeler le FRAN.
Le FRAN, oui, oui. Oui, c'est ça. Non, mais voilà, disons que on nous reproche quelquefois ça peut être justifié de dire, mais pourquoi faire une monnaie locale alors qu'on peut faire la même chose avec l'euro? Alors, effectivement, on peut, avec l'euro, choisir ses fournisseurs, on peut choisir ses produits, on peut favoriser un tel plutôt qu'un tel. Mais ce n'est que du commerce. Et à notre avis, il y a moyen de faire autrement avec de l'argent que simplement des simples échanges économiques.
Maintenant que vous avez répondu à ma question, je peux la poser.
Avec plaisir.
Bon, je comprends moins vite que la moyenne, mais j'assume. Si effectivement tous les gens qui font partie de ce réseau avec cette abeille s'engagent à acheter local, au maximum, quelle sera la différence entre cette structure-là ou la structure avec abeilles? Ça sera équivalent. Moi, je vais au panier paysan de mon village, etc. Que j'ai des abeilles ou mon argent, ça ne changera rien. Donc, deuxième étape, si jamais, effectivement, ça n'apporte pas grand-chose sur la prise de conscience, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas, toute l'énergie dont vous parlez qui me fascine, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser, par exemple, contre des accords qui vont s'opposer, qui vont nous attaquer dans les tribunaux, lorsqu'on, dans les cahiers des charges, on demandera de privilégier le local. Exemple, le CETA, le TAFTA, le TISA, etc. Ça, c'est très important. Est-ce que cette énergie que vous passez dans cette fabrication de billets, on ne peut pas également la mettre dans l'audit de la dette, rendre illégitime ses intérêts? On a payé 130 milliards d'intérêts depuis que la Banque de France n'a plus le droit de prêter aux États. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre cette énergie à nouveau dans la création monétaire, qu'elle ne soit plus appartenant à des banques, à des privés? C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de prêt avec intérêt. Le prêt avec intérêt, c'est je te pique, je te prête, tu me rembourses. Il y a quelque chose qui n'est pas terrible là-dedans.
On parlera des trucs que faisons-nous à la veille sans intérêt. Donc, voilà. Alors, je crois que vous nous prêtez plus d'énergie qu'on en a. Et que je vois que vous en avez beaucoup et que je vais vous laisser faire plein de choses, parce que avec l'euro, vous pouvez, effectivement, comme j'avais répondu malheureusement avant que vous le poussiez, qu'effectivement, on peut faire des choix qui sont tout à fait respectables et que je trouve fort, fort bien. Ceci dit, quand vous allez chez un commerçant local et que vous le payez en euros, le soir, il est mis dans la banque, qui n'est pas de votre choix nécessairement, mais je ne pense pas que, d'après ce qu'on a dit, la banque fera ce qui est de votre choix avec cet argent-là. Donc, voilà. En ce qui nous concerne, dans la monnaie locale, déjà, si vous voulez, il y a le fait que il y a une commission de reconversion pour les entreprises, qui n'est que de 2%, mais ça ne fait rien, et qui fait que l'objectif est de les inciter à faire circuler l'argent. Autrement dit, il ne revient à la banque que beaucoup plus tard. Il faut d'abord qu'il aille par le maximum de fournisseurs de l'entreprise, qui choisit ses fournisseurs dans le réseau, qu'il circule localement, et ensuite il revienne chez nous avant que nous, on le pose à la banque. Donc si vous voulez, déjà, le circuit de circulation de l'argent n'est pas du tout le même. Ça me paraît fort important. Après, rien n'empêche de tout ce que vous dites de le faire aussi. Par exemple, nous faisons des prêts aux petites entreprises qui sont en difficulté de trésorerie temporaire. On a fait un fonds de réserve supplémentaire indépendant sur notre résultat, sur nos bénéfices, on peut dire, résultat positif, qu'on a mis de côté et qu'on prête à des entreprises en difficulté passagère, non pas pour les enfoncer un peu plus, parce qu'on regarde non plus, on cherche à les aider, et on leur prête 1000, 2000 euros pendant le temps qui est nécessaire à tout zéro. Voilà, vous voyez, on le fait déjà. Mais après, le reste du temps, dans l'association, tous les sujets que vous avez abordés, on les aborde nous aussi, et on les propose au public. Mais la monnaie n'est qu'un outil. C'est l'outil qui permet de poser des questions, justement, c'est quoi l'argent, à quoi je m'en sers, et ça, vous ne vous posez pas la question à l'euro. Je n'ai sûrement pas répondu à tout ce que vous voulez.
Par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, on voit que le problème, un des freins que vous avez eu, que vous avez dit tout à l'heure, c'est le nombre de personnes qui ont adhéré à votre initiative. Pas tant les professionnels que surtout les usagers. Quoi. Donc ça soulève sûrement l'idée qu'il peut y avoir un problème au niveau de l'éducation populaire et de la sensibilisation des gens à l'intérêt de monnaie locale. Est-ce que vous, dans votre action, est-ce que votre venue ici est anecdotique ou est-ce que vous souhaitez continuer à propager les monnaies locales et à faire grandir le mouvement et grossir tout ça quoi.
En 7 ans, je n'ai pas fait le compte, mais je crois qu'on a sillonné la France dans tous les sens. Il n'y a pas longtemps, on était à Dax, là, le mois dernier. La semaine dernière, on était en Bretagne. Aujourd'hui, on est à Rodez. Parce qu'on le demande, d'ailleurs, on le fait par là. Ah, bah oui, c'est pas pareil, d'accord. Mais effectivement, nous avons dans les monnaies locales une démarche d'éducation populaire, c'est évident. Et ceci dit, vous savez aussi que tous les mouvements d'éducation populaire sont patients. Voilà, nous sommes patients. L'objet n'est pas de dire... en ce qui nous concerne, si vous voulez, nous n'attendons pas de résultats immédiats importants parce que ce qui est important, c'est que les choses aillent à la vitesse qu'on est capable d'assumer. C'est pas la peine de se développer pour s'écraser, ça sert à rien. Et puis l'objectif, si vous voulez, sur des questions fondamentales de vie en société, on n'attend pas des résultats économiques tout de suite. Et l'important, c'est que ça pénètre les consciences et qu'il y ait un choix qui vienne de la base, justement, par la suite. C'est pour ça qu'on tient absolument à être des monnaies citoyennes, car par rapport à d'autres mouvements qui existent dans le même sens que nous, on ne tient pas du tout à ce que ce soit des collectivités qui lancent des monnaies, parce qu'on n'en veut pas la dépendance. On ne veut pas dépendre de subventions qui disparaîtront, on ne veut pas dépendre des élus qui seront remplacés, on ne veut pas être le porte-parole, que l'élu soit le porte-parole de sa clientèle. Donc, ça ne peut pas aller vite dans ces conditions. Donc, c'est normal, si vous voulez, que les usagers qui s'y intéressent, c'est déjà beaucoup, c'est pas que dans nos adhérents, si vous voulez, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parce que dans nos adhérents, tout le monde n'utilise pas la monnaie. Tout le monde n'est pas adhérent, et tout le monde n'utilise pas la monnaie en étant adhérent. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux. C'est une question d'engagement, une question de disponibilité. Après, chacun fait ce qu'il peut, hein, il faut le respecter. Mais disons que tout le monde sait de quoi il s'agit. Et ça, c'est déjà pas mal.
Oui, je crois qu'il faut un peu comparer la monnaie, parce qu'en fait, c'est vrai, on a toujours ces questions-là. Et c'est vrai que la plupart des gens, quand ils démarrent quelque chose, ils voudraient tout de suite un résultat. Alors, on est la plus ancienne, on va terminer bientôt la 7e année, mais vous avez quand même la majorité des monnaies locales en France qui ont 2, 3, maximum 4 ans. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est rien du tout. C'est comme si tout d'un coup vous disiez, on aurait dit dans les années 70 ou 80, comment ça se fait que tout le monde se nourrit pas bio? Les bio auraient dit ça, ou les partenaires de la bio auraient dit, mais comment ça se fait? Pourtant, la bio, on en parle depuis 10 ans, 15 ans, et tout le monde se nourrit pas bio, ça va pas du tout, ça, on va tout arrêter, vous voyez? Et il a fallu attendre. Et même aujourd'hui, où on parle de plus en plus de la bio, si vous regardez autour de vous, quel est le pourcentage réel de personnes qui se nourrissent bio? Il est encore quand même un peu réduit. Et pourtant, tout le monde connaît la bio, et c'est peut-être ça le plus important. Parce qu'on sait qu'elle est là, on sait qu'on peut, avec la bio, nourrir toute la planète. C'est ça qui est important. C'est un repère, voilà, et pour les monnaies locales, c'est pareil. Peut-être qu'un jour, eh bien, il y aura peut-être davantage de personnes qui l'utiliseront, ou il y aura plusieurs aussi monnaies, parce que comme le dit Bernard Vieta dans un livre qui est vraiment bien... Comment il s'appelle son livre, Bernard Vieta? Le plus important, Bernard Vieta. Bernard Vieta, c'est lui qui a fondé l'euro, si je me trompe pas, entre autres, qui a participé à la fondation de la mise en place de l'euro. Voilà. Et il était directeur de la banque en Belgique. Et alors, je ne sais plus quel est le titre de son livre, mais c'est pas grave, il faudrait que vous en ayez un exemplaire. Et il explique que ce qui est important, c'est qu'il y ait une diversité de monnaies. À l'heure actuelle, regardez, en Europe, il n'y a que l'euro, quoi. Maintenant, il y a nous. Mais avec une diversité de monnaie, on peut faire face à des crises, on peut aller vers la résilience, tandis qu'avec une seule monnaie, sinon on s'écroule, il n'y a plus rien.
Une question ici.
Avez-vous réfléchi à l'utilisation des monnaies locales, donc de l'abeille, en cas de crise style Argentine? Fermeture des banques et compagnie.
Oui, certains nous disent tout de suite, c'est ça l'intérêt de la monnaie locale, c'est qu'avec la crise qui nous connaît, on va pouvoir s'en sortir. Je ne raisonne pas de cette façon-là, parce que je pense que quand on est dans des conditions difficiles, on trouve toujours des solutions. Et que ce n'est pas nécessairement les outils qui ont été imaginés idéaux qui permettent de résoudre quand les conditions changent. Mais, ceci dit, pourquoi pas bon, après... Comme on l'a dit tout à l'heure, la confiance tient au fait que les professionnels savent qu'ils retrouveront leurs euros pour pouvoir fonctionner dans la société à leur niveau, ne serait-ce que pour les taxes. Hein. S'il n'y a pas ça, voilà, il faudra trouver une autre solution de confiance. Mais à ce moment-là, la monnaie locale, pourquoi pas? Mais autre chose aussi, pourquoi pas? Ça sera en fait beaucoup plus du troc ou de la confiance qui se posera plutôt qu'un système en place qui, lui, est adossé aussi à l'euro. Et le fait de... Voilà. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Non.
Disons que en Grèce, dans la situation où ils sont aujourd'hui, il y a pas mal de petits monnaies locaux qui se sont créés justement dans les quartiers pour continuer à vivre tout simplement et ça, tout fonctionne avec la confiance, même l'euro comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne parce qu'on croit que quand je te donne 100 euros, toi tu les acceptes parce que tu crois que quelqu'un d'autre va accepter pour te donner quelque chose en contre-valeur, hein. un jour, cette confiance ne sera plus là, ton billet de 100 euros, 1000 euros. C'est aussi, pour vous prendre le bout de votre nappe, écrire 100 euros dessus, ça fonctionne. Si quelqu'un d'autre veut bien vous donner, ça fonctionne.
Merci. Vous avez dit que vous regroupez 17 associations. Ça a été... Non, je n'ai pas bien compris.
Ah, 17 communes. 17 communes.
Vous n'avez pas dit au départ que vous...
Non, 17 communes dans la...
J'ai parlé de 17 au sujet du territoire que nous avions choisi pour démarrer, qui était la communauté d'agglomération avec 17 communes.
Je l'ai compris au début de l'intervention. Vous avez des associations peuvent être adhérentes.
Ah oui, oui. Ah non, ah oui. J'ai dit que nous avions... Oui, effectivement. Nous avions 17 administrateurs.
Administrateurs.
Administrateurs, avec 5 collèges, dont associations, dont fondateurs, dont entreprises.
On va prendre une dernière question, je pense, parce qu'après, il s'avance.
Est-ce que les entreprises peuvent salarier leur... donner une partie du salaire en abeille, sous forme de une partie du salaire ou de prime? Est-ce que c'est autorisé? Sachant qu'il y a des charges, il y a des pourcents, enfin, il y a aussi des taxes, quoi.
Tout à fait. Alors, effectivement, ça se fait et c'est pas un problème. Moi-même, avec d'autres salariés, je faisais les bulletins de salaire et il était tout à fait comme tous les bulletins de salaire. Et entre autres, il avait en tête qu'il était calculé en monnaie officielle de l'euro et avec toutes les charges à déduire et le net qui en découlait. Et c'est à l'arrivée du mode de paiement qu'on met la différence en disant que sur 1000 euros, il y en a 800 payés par virement, donc en euros, et puis il y en a 200 payés en espèces abeilles. Et ça, c'est tout à fait autorisé dans le sens où même en euros, vous pouvez payer en espèces en partie. Il y a une limitation à 1500 euros qui a été faite depuis peu. Vous ne pouvez pas tout payer en euros au-dessus de cette somme, mais vous pouvez payer en espèces. Donc, l'abeille étant reconnue comme la monnaie locale étant reconnue comme un titre de paiement, vous pouvez tout à fait le payer. Alors comment on fait pour en arriver là? On a fait un avenant au contrat de travail. Le salarié doit pouvoir choisir. Il faut que ça soit une entente tacite de la part de l'employeur et de l'employé. Et se rajoute au contrat de travail un avenant que tous les deux signent et le salarié choisit le pourcentage de son salaire qu'il veut en euros. Notre animateur avait choisi 10%, il aurait payé tous les mois 10% en abeille. Et nous avons plusieurs entreprises qui payent leurs salariés comme ça, oui, en partie, à condition qu'ils le souhaitent, qu'ils acceptent, qu'il faut qu'ils signent l'avenant, et à ce moment-là, tout le monde est d'accord.
Et le chèque vacances, et le comité d'entreprise, c'est le même fonctionnement?
C'est-à-dire, là, dans le cas présent, nous, on est assimilés, effectivement, à ce type de paiement. Mais en réalité, dans la mesure où nos coupons ont la valeur de l'euro, on les paye en salaire. Mais les chèques de vacances, la plupart du temps, ce sont des primes. Souvent.
Est-ce qu'ils peuvent être versés, justement?
Ils sont versés aussi, de la même façon, en supplément, et qui ont une valeur correspondante à l'euro aussi. Tout à fait. Et ça, effectivement, ça peut être des primes. Mais disons que avant la prime, il y a le salaire, et tous les mois, le salarié peut avoir une partie de son salaire en monnaie locale.
Les collectivités?
Alors, les collectivités, je disais tout à l'heure que ça s'est amélioré récemment, de cette année, là, depuis l'été, ont le droit d'accepter. Nous avons, depuis 2 ans, une collectivité qui est rentrée dans l'abeille. C'est une petite mairie avec une maire qui est très dynamique et qui a dit « Moi, je veux que ma commune soit... » Elle a insisté auprès des instances longtemps, pendant un an, pour obtenir une procédure. Et on a fini par lui dire, les finances publiques départementales ont fini par lui dire « Si vous prenez une décision de conseil municipal et que ensuite, si elle est majoritaire, vous prenez un arrêté pour rentrer dans la monde locale, à vous d'établir une convention avec la monde locale, etc. Le problème que ça posait, c'est que dès qu'elle avait des coupons, il fallait tout de suite la reconvertir. Parce qu'en réalité, c'est une petite commune, mais dans une commune quelle qu'elle soit, toute commune a des services publics, et chaque service public est géré par une régie. Et il y a un régisseur qui donc reçoit. Et là, jusqu'à maintenant, le régisseur qui recevait des monnaies locales était obligé de reconvertir aussitôt, parce que les trésoriers payeurs qui sont au-dessus des régisseurs, qui représentent donc le service de l'État, mais qui gèrent le budget de la commune, refusaient d'avoir les monnaies locales, puisqu'elles n'étaient pas considérées comme des chèques à dos. Je dis ça parce que c'était très important. Nous avions envisagé de proposer aux municipalités de remplacer dans leur CCAS les bons pour Carrefour ou pour Auchan par des bons de monnaie locale qui permettaient à des gens, vous voyez, une idée que vous pouvez avoir. Voilà. Malheureusement, vu que le trésorier payeur ne pouvait pas les accepter, c'était bloqué. Donc, on en est là, et depuis donc 2 mois maintenant, ils peuvent les accepter. Alors, le problème qu'ils ont, c'est que cette maire voulait aussi, elle, en tant que maire, avoir ses émoluments en partie en monnaie locale, que là, pour le moment, le trésorier payeur n'a pas le droit d'acheter des monnaies locales, il peut les reconvertir, ça peut aller jusqu'à lui, il peut les reconvertir, mais il n'a pas le droit d'en acheter pour payer son personnel. Donc, vous voyez, on a encore du travail, on n'est pas fini, on va encore aller à Paris. Voilà, ça pourrait. Alors les collectivités, désormais, ça va beaucoup mieux, et il y a moyen de leur dire, tout au moins de répondre à leurs objections, et de, s'il y a une volonté, une motivation de la part des élus, de faire quelque chose ensemble.
Sauf s'il y a une autre question qui titille fort. Non. Je pense qu'on va pouvoir remercier nos deux intervenants, que moi j'ai trouvé... Enfin, c'était très enrichissant, humainement parlant, et deux sages. Donc, je trouve qu'il y a une grande sagesse dans vos propos, dans vos objectifs, dans le fait d'être posé, de dire voilà, on ne voit pas plus gros que ce qu'on peut être, et puis avec le souci, en fait, un souci d'efficacité, même si dans un premier temps, ça peut apparaître comme peut-être un peu de la lenteur ou un manque d'ambition, mais moi je trouve que vous avez une grande lucidité, et moi je pense qu'on peut vous applaudir.